est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris.
C'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Sur une chaise, les chounelles du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mon reste, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Et si chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre, dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée rentre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar.
Le sempiternel café au lait. C'était effectivement quelque chose qui s'est imposé dans les milieux populaires et bien au-delà de l'Europe occidentale et au-delà aussi, dans la fin du 19e et qui a régné et qui règne d'ailleurs encore très largement aujourd'hui dans les sociétés d'Europe occidentale. Donc c'est le fait que ça soit toujours pareil fait que le petit déjeuner est sous les radars, comme on dit, c'est-à-dire ne suscite pas l'intérêt. Dieu sait si dans toutes les librairies, les rayons de gastronomie ou d'alimentation sont invasifs, comme on dirait aussi, parce que ça concerne que les repas de midi et du soir. On n'a pas de petit déjeuner célèbre. Et au contraire, c'est le petit déjeuner pour lequel, quand on met les pieds sous la table, alors dans l'extrême interactualité, c'est plutôt le monsieur qui met les pieds sous la table et qui ne pose pas au petit déjeuner la question à son épouse, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? C'est toujours pareil. Inversement, il posera certainement la question à midi ou le soir. Donc, on a là quelque chose qui est modeste, qui semble ritualisé, qui est parfois d'ailleurs peu pris en commun, qui est souvent un peu qui est déconstruit dans la famille, où les gens se prennent successivement, ce qui fait que la mère de famille pourra interpeller ses enfants. « Avez-vous bien pris votre petit déjeuner ?» C'est pour moi tout à fait un symbole des rapports Nord-Sud. Et j'avais, en tant qu'enseignant, souvent éprouvé le fait que c'était un bon moyen pédagogique pour s'intéresser aux aspects de l'inégalité, à commencer par l'inégalité des productions agricoles, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord et le Sud. On ne s'intéresse pas assez souvent au fait que le petit déjeuner ne peut être que très récent, enfin récent en siècle. On remonte, comme vous l'avez dit, au XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui, on voit plutôt ce rite matinal se défaire. Au début du XVIIIe, c'est une affaire de riches, et de riches urbains. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont branchés, c'est-à-dire qu'ils sont liés à des circuits internationaux qui amènent des pays tropicaux, des plantations tropicales, du sucre, parce que c'est un repas sucré, ce qui est aussi une nouveauté, du café, du thé, du chocolat. Ces plantes ne poussent pas dans les pays tempérés. Quelques décennies auparavant, on les aurait encore qualifiées d'épices, c'est-à-dire que c'est des produits qui viennent de loin, qu'on achète fort cher, non pas parce qu'ils sont originellement rares, mais parce qu'il a fallu payer tout le prix de transport. C'est une affaire de riches. C'est plus difficile à radio, mais on peut commenter le tableau de Boucher qui est au Louvre, qui s'appelle « Le déjeuner ». Il n'est pas encore petit. Et qui est en revanche, il y a une horloge en plus, donc on sait qu'il est 8 heures du matin à peu près. Ce qui est aussi une démonstration de richesse au début du 18e d'ailleurs. Et dans ce tableau, on voit une famille avec des enfants, ce qui est aussi une nouveauté au 18e siècle, prendre probablement du café, peut-être du chocolat. C'est pas, la couleur est un peu ambiguë, mais c'est pas du thé. Il y a une théière par ailleurs dans le tableau. Donc on a là quelque chose qui est une démonstration de nouveauté et de richesse. Mais à la fin du 18e, le Parisien populaire, dans la rue, peut acheter chez un marchand ambulant qui vendra peut-être l'après-midi de l'eau, mais il peut acheter du café à peu près chaud, qu'il peut boire dans une timbale dans la rue. Le café sera d'ailleurs le carburant de la Révolution française. Le mot « déjeuner » signifie que c'est le repas qui suit le jeûne nocturne. C'est le moment le plus long pendant lequel on ne s'alimente pas, plus de 8 heures en général, entre un repas pris en fin de journée et le repas pris le lendemain matin. On s'alimente le matin, et dans la plupart des sociétés, c'est une alimentation qui ressemble à celle des autres repas. Ce sont souvent d'ailleurs des restes, parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner avant le déjeuner. Il faut déjà allumer le feu, hein, ce qui est une tâche qui nécessite que quelqu'un se lève avant les autres. De même que, comme le matin, on a besoin de boire. On est un peu en déficit hydrique. Et donc, on prend souvent de la soupe. C'est encore d'ailleurs mon grand-père paysan, déjeunait, petit déjeuner pas, vers 9 heures du matin, avec une soupe au lard. Mais il avait pris du café à 5 ou 6 heures du matin pour commencer à travailler. Voilà, prima colazione en italien. On a ces deux grandes familles, premier repas ou rupture du jeûne. Alors c'est une affaire sociale et géographique. Géographique parce que c'est né à Paris, dans la première moitié du 19e siècle. On le perçoit dès l'époque impériale. Et puis ça se diffuse socialement dans toute la monarchie de Juillet. Et d'ailleurs, Balzac en est témoin. Et il le raconte dans ses romans. On a là quelque chose où le déjeuner devient petit parce que, en fait, ce repas du matin, ce déjeuner, s'est divisé en deux à la fin du 18e, avec une première collation avec ces stimulants que sont les boissons d'origine tropicale tôt le matin, et puis un repas qui est pris en fin de matinée, mais qui est le second déjeuner. Alors on disait le petit et le grand, le premier et le second, et c'est le grand déjeuner est devenu le déjeuner tout court, à midi, et le petit déjeuner est resté petit déjeuner. Cela est à Paris. Parce que si on va plus loin, on s'éloigne de la capitale, surtout si on va en franchir les frontières, qu'on va en Wallonie, ou en Suisse, ou au Québec, aujourd'hui encore, le déjeuner, c'est le matin, le dîner, c'est le midi, et le souper, c'est le soir. Et pour ma part, qui suis d'origine à la fois provinciale et populaire, j'ai eu du mal, quand je suis venu à Paris à 20 ans, de déjeuner et non pas de dîner le midi. Et ça pose des quiproquos, éventuellement, quand on est invité. Il faut se méfier. En tout cas, si on est invité à un déjeuner ou à un dîner à Genève ou en Wallonie, il faut peut-être faire attention et demander l'heure. Dans une certaine mesure, les repas de midi et du soir ont une longue filiation. Bien sûr, il y a eu les grands changements liés à la cuisine savante inventée autour de la cour de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle et qui ont eu des effets, entre autres avec l'invention du restaurant à la fin du XVIIIe siècle à Paris encore. Mais il s'agit en fait d'évolution progressive. Tandis que l'apparition au début du XVIIIe du petit déjeuner, sa diffusion rapide à partir de la massification de la consommation de café dans l'ensemble de l'Europe continentale et de thé, en particulier au Royaume-Uni, mais aussi de cacao, en particulier dans la péninsule ibérique, c'est cette diffusion massive qui a multiplié les plantations et donc multiplié les traites négrières. Il ne faut jamais oublier cet arrière-plan. C'est quelque chose qui a banalisé ce repas, malgré tout, toujours très récent, c'est-à-dire deux siècles et demi.
Oh, quand je suis réveillé, j'étais encore bourré. Ça vient de m'arrêter, d'y coller. Je descends au café. Et même tout au café. Ah, je me mets trop au capousse. Et ça va mieux aller. Oh, je viens mieux de m'arrêter avant de piquer du nez. Dans ma chambre, il y a le plancher qui commence déjà à tanguer. Je descends au café. Et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Approché, m'a dit dégage, je peux te parler. Le salaud, il y a peu. Faire un tour, il y a peu. Oh, je mettrai au calmousse. C'est bien, mieux aller. Oh, il y a pas besoin d'être devin pour voir ce qui va se passer. Je lui fous de mon poing sur la gueule et ça va pas t'aller. Le salaud, il y a peu. Faire un tour, il y a peu. M'échange, c'est mieux d'aller me coucher. Encore un coup comme ça, je finis sur le pavé. Le salaud, il y a peu. Faire un tour, il y a peu. Ah, je mets trois roues, quatre pouces. Et c'est vert, mieux aller. Ouais, ouais, ouais. Faire un tour, il y a peu. Faire un tour, il y a peu. Ça va déjà beaucoup mieux. Faites un effort, faites un effort. Faire un tour haut.
Café !
Faire un tour haut.
Café !
Je mets trois ou quatre mousses. Et ça va. Attends, c'est à vous, entier. C'est à vous, c'est à vous.
Café !
Ouais.
Café !
Au plus, café !
Un gros café !
Et ça va. Il y en a un, il le connaît. Faire un tour au café. Faire un tour au café. Je vais mettre 3 ou 4 mousses. Ça va. C'est à vous.
Faire un tour au café. Faire un tour au café.
Je vais mettre 3 ou 4 mousses. Ça va. C'est un truc de parisien. C'est pas facile à dire. Je vais mettre 3 ou 4 mousses. Faire un tour au café. Faire un tour au café. Je m'attends au calmousse. Ça va mieux aller. Juste les filles, juste les filles. Il y en a qui vont, il y en a qui vont. Ils sont très très fortes. Les garçons maintenant, les garçons. Encore un effort, avec tout le monde. Faire un tour au café. Faire un tour au café. Allez, mettre au calmousse, ça va. Allez, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là ce soir à cette radio. La radio Blues Café. À mon avis, ils avaient entendu que je suis dans le café avant ça. J'ai eu la chance d'avoir les sorciers avec moi. Monsieur Christophe Garot là-bas, s'il vous plaît, là-bas. Monsieur Marcy Vickers, s'il vous plaît, là-bas. Monsieur Stan Schubert-Cochard, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. Faire un tour au café, ouais. Faire un tour au café. Ouais, je mets trois hooganous, et ça va mieux aller. Attention, c'est la dernière. Faire un tour au café, ouais. Faire un tour au café.
Je rappelle aussi que chocolat, c'est encore une invention européenne, puisque bien sûr c'était le cacahuète, pour parler nahuatl, pour parler aztèque, c'était bien une boisson américaine, mais qu'il était pris sans sucre, puisque la canne à sucre, elle, est d'origine asiatique et est venue avec les conquistadors. C'est seulement au milieu du XVIe que des Espagnols, des colons, ont l'idée d'associer sucre et cacao. Et là, ils inventent le chocolat. Alors là, le succès est immédiat, va se répandre assez rapidement en Espagne, entre autres par les couvents, et au-delà, en Europe, dans le cours du XVIIe siècle, par exemple en France, soit c'est par Bayonne que le chocolat est passé, soit c'est par la cour royale, puisque Louis XIII puis Louis XIV ont eu deux épouses espagnoles. Donc elles sont amenées, et surtout Marie-Thérèse, elles ont amené du chocolat avec elle. Marie-Thérèse avait une chocolatière qu'on appelait la moulineuse, parce que le chocolat devait être mousseux. Devait être agité par un petit moussoir, c'est-à-dire un fouet à chocolat. Et puis des churros, d'ailleurs c'est resté le petit déjeuner madrilène, hein, chocolaté con churros, qui ne se consomme pas tout de suite en se levant, c'est assez lourd, mais Marie-Thérèse le consommait évidemment avec de la friture, des churros, et au XVIIIe siècle, c'est devenu une boisson très très à la mode, mais pas forcément le matin. Le matin, on prenait plutôt les stimulants, café et thé, et c'était plutôt l'après-midi qu'on prenait du chocolat, qui avait une réputation un peu sulfureuse. Casanova fait remarquer que, je crois à peu près le citer, le champagne, c'est bien pour mettre ses dames en condition, mais le chocolat, c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est une réputation qui a disparu, puisque au XIXe siècle, le chocolat est devenu la boisson des enfants. Le petit déjeuner, c'est le lieu de l'invention agroalimentaire, donc de ce fait, de la publicité de masse. On a tous en tête, pour les Français, les publicités du chocolat Poulain, qui est blésois, qui a été une vraie multinationale, la seule concurrente possible en France par rapport aux entreprises suisses qui s'étaient mises en place dans la seconde moitié du 19e. Pourquoi la Suisse ? Parce qu'elle est protestante. Eh oui, et tout commence à Bristol, on est quand même assez loin de la Suisse, mais qui est un port d'importation dont on voit bien le lien dans les rapports Nord-Sud, mais Bristol, c'est aussi un lieu où il y a des Quakers. Et il y a une famille qui s'appelle la famille Fry qui cherche à lutter contre l'alcoolisme dans les classes populaires. Et pour ça, elle essaye de développer d'autres types de boissons, dont le chocolat. Et elle va développer, dans le cadre de la révolution industrielle aussi, du chocolat sous forme de pastilles, de bonbons aujourd'hui, pour essayer de toucher les enfants. Les liaisons protestantes amènent le chocolat en Suisse, et en Suisse on va inventer l'instrument du partage. À partir du moment où le chocolat est devenu solide, on va en faire des tablettes, mais les tablettes sont avec des petits carrés de chocolat pour qu'elles puissent être partagées équitablement entre tous les enfants. Donc, c'est les années 1860 à peu près que vous avez cette mise en place, mais il y a quelques précédents. Donc le chocolat devient un objet industriel, et entre autres il y a une firme qui s'est construite, qu'un pharmacien vaudois a construite d'abord sur le lait en poudre puis le lait concentré, qui sont des inventions elles des États-Unis pendant la guerre de sécession. Lait concentré sucré qui est Nestlé, Henri Nestlé. Voilà, donc on a la mise en place en Suisse d'un chocolat à la fois de grande diffusion, mais relativement haut de gamme, et des copies nationales, dont la firme Poulain n'est pas la seule, bien sûr, mais sans doute l'une des principales. Alors Poulain ayant été l'inventeur de la vignette, de la petite image qui est dans les tablettes et que l'on peut collectionner. Il faut des grandes entreprises pour avoir des moyens publicitaires, et ça va être quelque chose qui, sous forme de ces réclames, on a tous en tête des affiches où l'on voit des consommations de cacao pour les enfants, mais aussi de thé ou de café, étant donné que ce sont souvent les mêmes diffuseurs, voire les mêmes producteurs des éléments commercialisés.
Toutes ces inhibitions piquées sous les paupières, la peur du ridicule qui se colle à la nuque, et toutes les certitudes plus pointues qu'une épingle, et les craintes qui dorment dans le fond d'un cratère. Du venin dans les veines, du sirop dans le cœur, ne pas oser lutter contre les convenances, mais se laisser noyer dans un marais de principes, soumis comme un drogué prisonnier en Thaïlande. Hey, c'est ta vie. Et tu sais que t'en as qu'une. Tu cries dans un local qui résonne. Le rock ici s'est perdu d'avance. Et l'esprit de banlieue à l'abri des typhons, mélange de jalousie et de timidité, conformismes éteints comme des tailleurs gris, et cette prudence chaste jusqu'au bout du désir. Et toutes ces frustrations, ces besoins d'érection, de lingerie et de muscles, la sueur chaude qui s'écoule sous les maillots moulants des jeunes filles catholiques, qu'entretiennent leur forme en dansant l'aérobic. Cette zone emmêlée dans ses a priori, dans ses permis de construire et puis ses plans d'épargne. Et ceux qui se protègent sous une grande serre, isolés, laine de verre, chlorophylle sous la neige. Membres du tennis club ou des tournois de bridge, ces losers magnifiques, ces champions déçus qui finissent alcooliques, en attendant un fils parti dans le Pacifique et qui reviendra jamais plus. C'est ta vie. Et tu sais que t'en as qu'une. Tu cries dans un local qui résonne. Le rock ici s'est perdu d'avance. Mais tu répètes. Et tu joues ce que tu penses. Ouais, tu répètes. Et tu joues ce que tu penses. C'est le local rock, local rock. Well, look out, rock, look out, rock. Look out, well, look out, rock, look out, rock. It's the look, rock, look out, rock.
Madelon, 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 Madelon. jardin de l'an, viens nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire. Une histoire de sa façon. Une histoire à sa façon. Une histoire à sa façon. La main de l'homme pour nous n'est pas sévère. Quand on lui parle la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 Madelon.
On sait depuis le début du 19e siècle, et c'est Goethe qui avait lancé la recherche scientifique, que le café contient de la caféine dont on a décomposé la molécule et dont on connaît bien les effets. On apprendra d'ailleurs assez vite plus tard que ce qu'on croyait être une substance légèrement différente, la théine, c'est de la caféine. C'est exactement la même substance. Donc dans le thé et dans le café, avec des modalités de diffusion dans le corps un peu différentes, le thé c'est plus lent parce que le thé ne contient pas que de la théine, mais il a des tanins aussi qui retardent l'absorption. Le café, lui, c'est beaucoup plus immédiat, cette diffusion de la caféine. On sait que ce sont des excitants. C'est pour ça que, d'ailleurs, le café va devenir beaucoup moins une boisson possible pour les enfants à partir du 19e siècle et que le chocolat va s'y substituer. Mais le café s'impose dans l'Europe continentale, et même d'ailleurs chez les Britanniques qui consomment aussi beaucoup de café, comme la boisson de base, et en particulier la boisson de base des petits déjeuners additionnés de lait. Le café s'introduit en particulier à Paris au milieu du XVIIe siècle. Les premiers établissements de café, qu'on appellera plus couramment les cafés, c'est à la fin du XVIIe siècle. Alors, le fait de mettre du lait dans le café, dans le thé et dans le chocolat, ça c'est une invention totalement européenne. Pour un Chinois d'ailleurs, mettre du lait dans du thé, c'est à peu près comme pour un Français mettre du Coca-Cola dans un grand cru bordelais. Ce que font aussi parfois, dit-on, certains Chinois. L'Europe fait son marché dans le monde entier, et en particulier sous les tropiques, où elle produit ses propres fabriques, hein, les plantations, mais elle les adapte, elle les insère dans ses propres traditions culinaires. Le café, lui, est une plante qui est cultivé seulement depuis les 12e, 13e siècle au Yémen. Il est venu d'Afrique, d'Éthiopie, et il s'est diffusé assez rapidement dans le monde musulman par l'intermédiaire des pèlerinages de la Mecque. Or, là aussi, il y a eu une réticence de la part des autorités religieuses, et en particulier d'Al-Azhar, contre cette boisson qu'on pouvait peut-être assimiler au vin, puisqu'il avait des effets très rapides sur le corps. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il permettait de ne pas dormir, et en particulier dans les couvents de soufis, il a été utilisé pour les prières nocturnes. Et quand il est venu en Europe, via les Vénitiens, la papauté s'est posé la même question, en se disant, est-ce que cette boisson... Mais ce n'est pas qu'on lui reprochait de ressembler au vin. Ça, dans le monde chrétien, ce n'est pas un drame. Mais de venir d'un pays musulman. C'était ça ce qu'on lui reprochait. Et donc, cette boisson d'origine musulmane, on l'a suspectée de ne pas être très chrétienne. Proposer un café, c'est ce que l'on fait constamment quand on rencontre quelqu'un. Et en particulier, le matin, c'est, c'est la boisson typique dans la plupart des cas. Beaucoup plus que le thé, qui maintenant, néanmoins, commence à reprendre du poil de la bête. Et pas seulement dans les pays anglo-saxons. Donc, le café est devenu une sorte de norme. Prendre son jus, comme on disait à la armée autrefois, le matin, c'est quelque chose d'inévitable. Il y avait un côté plus boisson d'homme, alors que le thé avait la réputation d'être une boisson plus féminine. Donc, dans cette répartition, le café s'était imposé comme le café des ouvriers, le café des soldats, mais aussi le café des écoliers, qu'ils prenaient avec plus de lait, c'est tout. C'était quelque chose qui était la stimulation du matin et le début de la journée de travail. café est à l'origine une décoction. On fait bouillir du café moulu avec éventuellement des aromates, du sucre. Ça, c'est le café dit turc qu'il faut laisser reposer. Les Européens l'ont connu ainsi, l'ont importé ainsi. Et puis, finalement, on trouvait que eux qui mettaient éventuellement du lait, c'est quelque chose qui ne se mélangeait mal. Effectivement, on mange un peu de café, et donc on va le filtrer. Donc, on filtre le café en Europe, alors que les Européens ont connu le café turc, hein, c'est-à-dire une décoction où le café bout avec du sucre et éventuellement des aromates. Donc, dès le 18e, on utilise des filtres, on dira à la chaussette plus tard, juste d'autant plus que le coton, les tissus des cotonnades, les indiennes, arrivent massivement à ce moment-là et représentent d'excellents filtres. Et puis, ensuite, on va utiliser des filtres métalliques vers 1800, en particulier à Paris, avec l'évêque du Bellois qui va utiliser des cafetières deux corps. C'est l'invention des cafetières avec deux parties, de l'eau qui chauffe en haut et puis qui filtre en bas, et qui va donner son nom aux cafetières qu'on appelle à la dubelloise. À la fin du 19e siècle, ce sont les Italiens qui vont inverser les choses et faire monter au contraire l'eau par la vapeur dans des cafetières qui seront, elles, sous pression. Ce qu'on appelle toujours une cafetière italienne. Ces cafetières, elles nécessitent toute une industrialisation. Il y a derrière tout un travail des métaux, en particulier, qu'on ne pouvait pas faire au XVIIIe siècle. Donc c'est lié à la révolution industrielle.
Quand j'allais au fond de la mine, je mets nos ânes plus tranquille. Tous les soirs après le boulot, je m'arrête au boire à peau. Même que je rate trop à minuit, elle ne m'a jamais rien dit. Aujourd'hui que je suis passionné, j'attends tout d'y crier. Oui, par chi, oui, par là, oui, viens chi. Ramonne par chi, ramonne par là, gratte-me par chi, gratte-me par là, assique-me chi, assique-me là, fais briller chi, fais briller là, et petit loulou, et petit louis, et tout dit là. Dire du temps où je travaille, je me dis au vif mal repos, j'ai ton balois de me douter, tout ce qui a l'eau m'arrivait. Je me veille tous les matins, à l'bec avec ma voisin, mais j'ai pas un minute à mi. Il faut tout dire qu'elle crie. Louis Perchi, Louis Perla, Louis Viachi, Louis Viala. Ramonne par là, passe-me par chi, passe-me par là, assique-me chi, assique-me là, fais briller chi, fais briller là, et petit loulou, et petit Louis, et tout dit là. Ah, si j'avoue sur fusée, Prat aime retraite anticipée, serai plus heureux aujourd'hui, je mènerai une meilleure vie. À me faire tout ce qu'on me fait faire, je vais vite me retrouver sous terre, saquer me retraite anticipée, je vais pas en profiter. Louis Perchi, Louis Perla, Louis Viachi, Louis Viala. Ramonne Perla, gratte-me Perchi, gratte-me Perla, assique-me chi, assique-me là, fais briller chi, fais briller là, et petit loulou, et petit Louis, et tout dit là. Louis Perchi, Louis Perla, Louis Viachi, Louis Viala. Ramonne Perla, gratte-me Perchi, gratte-me Perla, assique-me chi, assique-me là, fais briller chi, fais briller là, et petit loulou, et petit Louis, et tout dit là.
Le thé, d'abord, a une particularité, c'est qu'à la différence du café ou du chocolat qui est peu bu, à la fois dans les régions d'origine et dans les régions productrices, sauf peut-être le Brésil, qui est quand même un grand consommateur de café, le thé reste d'abord et avant tout une boisson chinoise. C'est quelque chose qui a été mis au point par les Chinois, le Camellia sinensis, le buisson qu'est le théier, quelque chose qui est originaire de la Chine du Sud, et c'est en Chine, au moins au deuxième millénaire avant notre ère, que l'on a mis au point cette infusion. qui consiste à faire mettre dans de l'eau chaude, faire bouillir éventuellement, donc c'est plutôt une décoction, des feuilles de thé, des feuilles de théier. C'est de ce fait techniquement le plus simple hein, par rapport au café ou au chocolat qui nécessite des tas de préparations préalables. Tandis que le thé, même s'il a développé une culture tout à fait équivalente à celle de l'œnologie, avec une multitude de manières de le préparer, une multitude de plants, de crus, de régions. Le Darjeeling aussi, c'est lorsque les Britanniques ont amené du thé en Inde. Hein. Ça, c'est seulement après la première guerre de l'opium, qui devrait s'appeler la guerre du thé, d'ailleurs, pour être plus logique. Le traité de Nankin qui la termine permet justement d'acheter des plants de thé et d'amener la technologie du thé en Inde. Donc c'est à partir des années 1840 que les Britanniques se procurent énormément de plants de thé. Il y a un voyageur célèbre qui a été un grand acheteur de plants de thé qui s'appelait Robert Fortune, dont on a gardé un très joli petit livre qui s'appelle La route du thé et des fleurs, où on le voit collecter, déguisé en mandarin chinois, collecter des plants de thé à travers la Chine. Je le recommande aux auditeurs. Le thé a été amené par des Néerlandais, parce que c'est des compagnies des Indes néerlandaises qui ont amené le thé. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle thé et non pas chai. Cette diffusion a été très vite reprise par la compagnie britannique des Indes. Donc c'est pour ça que les Britanniques ont été de grands consommateurs de thé dès le XVIIIe siècle. Tellement consommateurs d'ailleurs qu'ils ne pouvaient s'en procurer qu'en Chine, qui était le seul producteur massif à l'époque, et que c'était un commerce totalement déficitaire. La compagnie des Indes achetait du thé contre de l'argent, qui lui venait d'Amérique, donc on est en pleine mondialisation, les Chinois n'achetaient rien aux Britanniques, rien ne les intéressait, jusqu'à ce que la Compagnie des Indes ait eu l'idée d'utiliser une plante qui poussait abondamment en Inde, dans le delta du Gange qu'ils contrôlaient, que la Compagnie contrôlait, qui était le pavot, mais dont ils tiraient l'opium. Et là, ils ont vite aperçu que les Chinois étaient grands demandeurs. Donc la Compagnie des Indes britannique a été pendant un bon demi-siècle, d'abord et avant tout, un trafiquant de drogue, contre du thé. Lorsque les Chinois ont voulu réguler ce commerce, qui évidemment avait des tas d'inconvénients, la consommation d'opium désorganisant la société, ils ont détruit des cargaisons d'opium britanniques, la compagnie s'est fâchée, a entraîné l'État britannique dans l'affaire, et il y a eu la guerre que les Britanniques ont gagnée. Ils en ont gagné Hong Kong à l'époque, et puis bien sûr le traité de commerce qui leur a permis de s'emparer, somme toute, de la production de thé, qu'ils ont diffusé tout autour de l'océan Indien dans leur colonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier exportateur de thé au monde n'est pas la Chine, qu'il consomme, très premier producteur, mais qu'il consomme essentiellement, mais le Kenya. La plupart des petits sachets de thé breakfast qu'on boit couramment, ça vient du Kenya. Il ne faut pas oublier que c'est toujours une affaire de grandes entreprises. J'ai évoqué brièvement tout à l'heure les compagnies des Indes qui n'avaient pas pour objectif initial au départ le transport de ces boissons et leur commercialisation, mais pour qui ça va prendre une importance très grande. On a vu le rôle que ça avait pour la compagnie britannique, le commerce du thé et la nécessité de se fournir en thé, mais le café qui très vite d'ailleurs est cultivé aux Antilles dès le début du XVIIIe siècle, on appelle ça le café des îles, va prendre une importance considérable. Le thé, il faut le faire sécher, il faut l'organiser en différentes briquettes, parce que on oublie un peu, mais le thé de grande qualité est un thé relativement frais, qui se consomme vert. Les Européens, qui mettaient plusieurs mois, presque une demi-année, pour ramener du thé de Canton à Londres, devaient le transporter sous forme de briquettes de thé noir, c'est-à-dire de thé concentré, macéré, quelque chose qui va être à la base du goût du thé britannique, qui va être effectivement pas forcément aussi concentré en théine que le café vert. On oublie souvent que le thé vert est plus excitant que le thé noir, parce que il est plus frais et la concentration en théine est plus importante.
Ceux qui profitent de ma détresse, peu ceux qui veulent que je vienne. L'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête. On veut son amour, pas la guerre. Réussir ou bien mourir, c'est la promesse. Le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appellent toutes les richesses. Du monde on oubliera la peur, du monde on oubliera les dangers. Nos grands-pères dans la grande guerre, comme nous ont déjà été piégés par l'homme, le désert et la mer. Je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici. En moi j'ai une plaie à vivre. Mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif agressif. Je vis dans ce monde comme en apnée, à deux doigts de l'apoplexie. Ma tête est sur le point d'exploser, pas loin je suis de l'asphyxie. Tu sais, si nous étions mieux organisés, moins dépendants, moins divisés, mieux équipés, mieux nourris, plus rassurés dans notre estime, on rebâtirait toutes les pyramides. Ma terre porte tellement d'histoire, l'Afrique devrait être pour moi l'Amérique. Et pourtant je n'ose pas m'y voir. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or, je me dois d'honorer mes morts. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'or, et d'améliorer mon sort. Hey,
quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. Quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro.
Nigérian, malien, béninois, ghanéen, camerounais, ivoirien, burkinabé, j'appelle à l'unité comme si Sankara continuait de prêcher, comme si Lumumba continuait de vivre. La vérité est-elle dans les livres? Les hommes s'unissent que dans le pire. Le rêve de la France est un business, le trafic d'humains est un business. Les passeurs le savent, c'est leur business. On voyage en carpa en business. Pourquoi les hommes qui œuvrent pour le bien ont tant de mal à se trouver? Pourquoi les hommes qui œuvrent pour le bien ont du mal à construire ensemble? 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 2 millions CFA. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, où vais-je emprunter tout ça? Les hommes qui œuvrent simplement pour eux-mêmes n'attendent de moi que de l'argent. Les hommes qui œuvrent simplement pour eux-mêmes affirment m'aider, pourtant ils vivent et priment à mes dépens. Le fric, le passeport et l'essence, business international de la honte, ils se gavent tous à mes dépens. Ils m'emmèneront de Cotonou à Gao, si le village cotise pour le premier dépôt. Si j'ai assez, le visa sera sans défaut. J'irai et ferai tout ce qu'il faut. Hey,
quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. Quel est le prix pour retrouver ma dignité? Au marché, ma vie n'est pas encore affichée. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro. En CFA, on vaut l'euro.
Baguette est en grande partie due à Haussmann. Alors le préfet Haussmann, c'est pas qu'il fait des longues avenues avec un rapport avec la baguette, c'est parce qu'il réglementait les boulangeries de manière à ce qu'elles ne travaillent qu'à partir de 4 heures du matin pour éviter au maximum les risques d'incendie. Donc de ce fait, il fallait faire lever la pâte relativement tard par rapport à la boulangerie précédente, et on ne pouvait faire des pains qui cuisaient vite. Donc les pains longs cuisent beaucoup plus vite que les pains ronds. Ce qui correspond à l'évolution de l'alimentation des urbains ou des néo-urbains du 19e siècle, dû à l'exode rural, qui avaient cette fois-ci pris l'habitude d'acheter leurs biens alimentaires tous les jours. C'est l'invention du commerce de proximité qui existait peu au 18e siècle. Voilà, se conserve beaucoup moins bien, ce qui est un inconvénient par rapport aux pratiques anciennes, mais qui permet effectivement d'abord d'avoir plus d'extérieur, plus de croûte, donc ça le rend beaucoup plus croustillant comme pain, et s'il se consomme vite, il peut effectivement être utilisé sous forme de tartine, puisque sa forme va prédisposer à l'idée de tremper dans un bol, qui est aussi une invention de l'époque, et qui donc va faire la tartine de pain. Mais vous voyez, la baguette, c'est de la seconde moitié du 19e siècle, elle ne sera d'ailleurs codifiée qu'après la guerre de 14. Donc, la baguette dans le café au lait était par ailleurs une pratique considérée comme populaire, qui n'était pas de bonne tenue, et donc qui distinguait les éléments dans la société. Mais effectivement, la baguette va devenir la base de la baguette fraîche, la base du petit déjeuner associé au café au lait. Le pain populaire était consommé sous forme beaucoup plus de grosses miches, hein, de pain. La baguette était relativement chère par rapport aux autres produits. Mais effectivement, ça devient plutôt le pain du petit déjeuner. Puis 1918, jusqu'au décret Balladur, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle, la baguette est l'objet de beaucoup de soins parce qu'il peut provoquer l'émeute. le fait d'utiliser des pains qui se conservent. Là, cette fois-ci, on est dans le domaine de l'agroalimentaire, y compris pour le pain. La baguette, le pain de mie est un pain industriel. Donc, même si les boulangers peuvent en faire, ce pain industriel, il va se griller le matin parce qu'il contient beaucoup d'eau pour pouvoir se conserver. Et donc, on va le griller pour le rendre chaud. Pour ça, il faut inventer le grille-pain. Ça sera non sans mal, parce que les premiers grille-pains utilisent du fer, essentiellement, qui se consomme à cause du flux électrique qui passe à l'intérieur. Donc il va falloir inventer des mélanges métalliques complexes pour pouvoir réussir à faire des grille-pains qui durent, même si c'est un des objets qui se périme le plus vite possible. Enfin, ça se casse assez vite, un grille-pain. On n'a jamais réussi à trouver des grille-pains qui durent des dizaines d'années. Le grille-pain, donc, ça s'invente aux États-Unis vers 1900. Vous avez effectivement un pain qui est beaucoup plus léger et facile à digérer quand il est grillé que quand il reste cru, enfin presque cru. Donc, la charge en amidon est moins élevée. Voilà. Mais effectivement, c'est non seulement le plaisir de l'avoir chaud, mais aussi le plaisir de l'avoir plus léger. Dans le cadre de la guerre de sécession, puis surtout du traitement des blessés ensuite, on a inventé une nourriture tout à fait efficace pour le petit déjeuner, qui était ces pétales de céréales, dans un hôpital dirigé par Monsieur Kellogg, qui ensuite a commercialisé avec son frère ce produit. Mais il n'est arrivé en Europe occidentale et en France en particulier que dans le cadre de la mondialisation récente, dans les années 70 essentiellement. Alors là, il a pris une place considérable. Et c'est un bel exemple de l'agroalimentaire et de la mauvaise diététique.
Notre histoire. Et tous ces cons, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je boirai seul mon café noir? Tout le monde pensera que je suis foutu. Moi, je maudirai mon désespoir. Ensuite, j'irai pleurer ma vie dans un bistrot que je connais pas. Tout le monde pensera que j'ai rien vécu. Je leur vomirai mon histoire. Je leur vomirai mon histoire. Je leur vomirai mon histoire. Sans rien dire, de notre café, là juste en bas. Pourquoi t'es jamais revenu? T'as pas fini ton café noir. Pourquoi t'as rien voulu me dire? Dans notre café, tu sais que moi, j'y serai toujours le malvenu. Si on ne finit pas notre histoire. 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 Si on ne finit pas notre histoire.
L'esclavage qui donne le sucre, qui est l'histoire la plus ancienne, hein, puisque c'est une des motivations essentielles de la traversée de l'Atlantique, c'était aussi diffusé pour les plantations de caféiers et de cacaoyers. Ça le sera au XIXe siècle dans les plantations de théiers, qui sont plus récentes, sous la forme des coulis. Qui ne sont pas exactement les traites négrières, mais qui ne valent guère mieux pour la vie des travailleurs. Donc oui, il ne faut jamais oublier que c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe, c'est à ce prix que vous buvez du thé, du café et du chocolat. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est cette inégalité qui est très largement à l'origine de l'inégalité Nord-Sud qui nous est toujours contemporaine. Ben, il rappelle très justement le dur métier des travailleurs de plantation. Là, il s'agit plus sans doute des travailleurs du 19e, 20e siècle que des esclaves du 18e. Mais enfin, c'est toujours une forme d'exploitation particulièrement forte de planter café sous le soleil des tropiques et de porter café dans le ventre des navires.
Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Merci à vous tous qui, de Valenciennes à Thionville, d'Alsace en Bretagne, des Antilles à la Réunion, de la Manche à la Lozère, de la Haute-Savoie au Var et à la Corse. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur. Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur.
Hexagone, l'émission 100% AOC France.
Au revoir.
À la semaine prochaine.